Bonjour à tous. Alors, il est de bon ton en début d'année de se souhaiter la bonne année, la bonne santé, etc., etc. Bon, moi, je suis pas dans le trip, hein, je suis désolé. L'année biblique a commencé au mois d'avril. je vous souhaite plein de bénédictions, ce qui devrait être le cas pour chacun des chrétiens. On n'a même pas à se le souhaiter parce que c'est une promesse de Dieu. Voilà, voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Soyez bénis. Prenez, ça va? Bon, amen. Au revoir. J'avais une parole de Dieu. Vous allez dire, pour bien commencer l'année, ça va vous remonter le moral. On peut lire dans Luc 12, je commençais par Luc. Luc 12, au verset 35. Et cette parole, ce serait la feuille de route pour cette année, quoi. Mettez une ceinture à vos reins. Et que vos lampes soient allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent leur maître, que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir aussitôt qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. En vérité, je vous le dis, il se ceindra et fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou troisième veille de la nuit, et les trouve ainsi heureux sont-ils. La deuxième veille, c'est minuit. La troisième veille, c'est 3 heures du matin, pour ceux qui se demandent ce que c'est. Donc, qu'il arrive à minuit ou qu'il arrive à 3 heures du matin, et les trouve ainsi heureux sont-ils. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur devait venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure, vous n'y penserez pas. Voilà le message. Veillez, priez, mettez une ceinture à vos reins. Ça veut dire quoi, mettre une ceinture à vos reins? C'est la ceinture de la vérité, oui. Mais c'est de rester déjà habillé, parce que bon, à l'époque, ils avaient des tuniques, et une tunique sans ceinture, c'était un peu le bazar. Il valait mieux avoir une ceinture. Et si on prend un argument guerrier pour manier une épée, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà fait, si vous n'avez pas une ceinture à vos reins, vous avez autant de chances de finir avec un tour de rein qu'avec une épée dans le ventre. Donc, pour manier une épée, il faut une ceinture. C'est indissociable. Parce que les coups d'épée, ça c'est facile quand vous regardez ça à la télé, dans les films, les beaux films que vous avez. Mais sachez que si vous n'avez pas de ceinture au rein, manier une épée, c'est quasiment, vous avez déjà perdu la moitié du combat, quoi. Donc la ceinture est une arme autant que l'épée. Donc, mettez une ceinture à vos reins et que vos lampes soient allumées. Alors, les lampes, on en a parlé la dernière fois, j'avais parlé de Hanouka, hein, la fête des lumières. Qu'est-ce qu'une lampe? À l'époque, les lampes, c'était des lampes à l'huile. On n'avait pas l'électricité. Donc, il fallait deux choses pour y avoir une lampe, un récipient, de l'huile et une mèche. Et s'il manquait l'un des trois, ben vous restiez dans l'obscurité. L'huile, vous savez le symbole de l'huile, ce que c'est? C'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. Le récipient et la mèche, c'est nous. Le récipient, c'est notre corps et la mèche, c'est notre esprit. « Et la lampe, qu'est-ce que c'est aussi? On peut le lire dans Psaume 119, verset 105. Je le lis, je n'ai même pas besoin de tourner les pages parce que je le connais par cœur. 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole, c'est tous tes enseignements. Tous tes enseignements, regardez le psaume 119, il est très intéressant. Il est parlé du début jusqu'à la fin, c'est le psaume le plus long de tout le livre des psaumes. Il est parlé de son enseignement, de ses commandements, de ses préceptes, de tout ce qui sert à suivre l'Éternel. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alors tout ça, pourquoi faire? Est-ce que vous avez besoin de lumière s'il fait jour, en plein midi? Ou est-ce que ça sert à rien? C'est-à-dire, bon, vous pouvez allumer la parole. Promenez-vous avec une petite lampe à huile. Je ne sais pas si vous avez déjà vu comment ça éclaire. En plein midi, ça ne sert pas. Ou très peu. Alors, quel est l'enseignement qu'on tire de ça? Quels sont les jours que nous vivons? On peut le lire dans Éphésiens 5, les jours que nous vivons. Éphésiens 5, au verset 14. C'est pas ça. C'est peut-être intéressant. En fait, c'est pas ce passage-là. C'est réveille-toi, toi qui dors, car les jours sont mauvais. Je sais pas où c'est. C'est Éphésiens 4 5, 14, voilà. Combien? Peux répéter, j'entends rien. 5, ben oui, parce que je lisais 4, c'est pour ça. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ resplendira sur toi. Qui c'est la lumière là? Mais tout cela, une fois dénoncé, apparaît à la lumière, tout ce qui apparaît et tout ce qui apparaît est lumière. C'est pourquoi il écrit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Messie resplendira sur toi. Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. » Du Seigneur, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis d'esprit. Et on a lu tout à l'heure, entretenez-vous par des psaumes, c'est le même passage en fait finalement. T'avais lu le premier là? Ah, c'est à peu près le même, ouais. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Voilà le programme. Réveille-toi, toi qui dors. Question, est-ce que vous dormez? Je pourrais me mettre dedans, est-ce qu'on dort? Alors moi je vais dire, ça roupillait bien jusqu'à un début d'année dernière. Et puis il y a quelque chose qui est venu et qui a fait que ça n'a plus été jamais la même chose. On pense que la crise du Covid, c'est quelque chose comme ça. Ça arrive, ça vient, ça va. Il y en a déjà eu des dizaines dans le temps. Ouais, peut-être, c'est pas la première fois qu'il y a des épidémies ou des pandémies. Mais c'est quand même la première fois que cette pandémie ou cette épidémie arrête l'économie mondiale. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui sont les plus anciens qui étaient là, quand je vous avais parlé à l'époque du 11 septembre, je vous avais dit que c'était le premier round. C'était juste une petite répétition générale de ce qui allait arriver après. Bon, j'imaginais pas, je ne suis pas prophète, j'imaginais pas que le après, ce serait un virus. Mais sachez que ces choses qui arrivent, déjà, n'ayez pas peur, c'est maîtrisé par Dieu. Mais c'est des choses qui doivent arriver. Et ne pensez pas que ça va être un vaccin qui va nous tirer d'affaire. Certes, ça va nous tirer d'affaire peut-être pendant un an ou deux, mais je le dis encore une fois, c'est qu'une répétition générale de ce qui va arriver. Il est prévu un gouvernement mondial. Et toutes ces petites choses qui arrivent, qui s'emboîtent les unes dans les autres, c'est la porte ouverte à un gouvernement mondial qui va arriver. Et qui dit gouvernement mondial dit aussi surveillance générale et tout ce qui s'ensuit. Je ne vais pas faire le complotiste, hein, mais je peux lire un passage dans Daniel. Vous savez que Daniel, c'est l'Apocalypse de l'Ancien Testament. L'Apocalypse, on va dire l'Apocalypse du peuple d'Israël. Et Jean n'a rien inventé dans l'Apocalypse de Jean, puisqu'il a repris pas mal de choses, de passages de Daniel qui ne s'étaient pas accomplis à l'époque et qui sont encore valables dans l'Apocalypse de Jean. Alors Apocalypse, ne vous inquiétez pas, c'est pas ce qu'Hollywood dit. Hein. Apocalypse, c'est pas la fin du monde. Apocalypse, vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire dévoilement. Quand vous prenez une statue, vous faites une inauguration, vous prenez une statue, vous dévoilez la statue, voilà, je fais une apocalyptos. Je dévoile quelque chose qui est voilé, caché, mais qui n'est pas, c'est pas la fin du monde avec la Troisième Guerre mondiale et la bombe atomique. C'est un terme justement qui a été dévié. Donc Daniel, c'est aussi une apocalypse, c'est un dévoilement des choses qui allaient arriver. Je cherche Daniel. Daniel, es-tu là? Daniel 4, pour ceux qui veulent le trouver. Pour ceux qui ont la bonne mine, c'est page 1019, voire même 1016. Daniel parle d'un roi que vous connaissez sûrement, qui s'appelle Nebuchadnezzar. Qui était, je dirais, la personne la plus importante du monde à l'époque. Le roi des rois, il s'appelait d'ailleurs, on l'appelait le roi des rois aussi. Le roi de Babylone. Et donc on peut le lire à partir du verset 19. Ce roi a fait un rêve. Où il a vu un arbre dont la cime s'élevait Alors je vais le lire. C'est Daniel qui lui donne l'explication du rêve. C'est toi, ô roi, qui es devenu grand et puissant, dont la grandeur... Attends. Je vais le lire à partir du verset 16. Alors Daniel, nommé Belshazzar, fut un moment stupéfait et ses pensées l'épouvantaient. Le roi reprit et dit, Belshazzar, que le rêve et l'explication ne t'épouvantent pas. Et Belshazzar répondit, mon seigneur, que le rêve soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu était devenu grand et fort, dont la cime atteignait le ciel, et l'on voyait de toute la terre. Cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs et dans les branches duquel les oiseaux du ciel demeuraient, c'est toi, ô roi, qui es devenu grand et puissant, dont la grandeur s'est accrue au point d'atteindre le ciel et dont la nomination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un des saints qui veille descendre du ciel et dire « Abattez l'arbre et détruisez-le. Mais laissez en terre le tronc et ses racines dans des chaînes de fer et de bronze parmi l'herbe des champs, qu'il soit trompé par la rosée du ciel, qu'il y ait des bêtes des champs, avec les bêtes des champs, l'herbe pour partage, jusqu'à les 7 ans soient passés sur lui. Voici l'explication au roi. Voici le décret du Très-Haut qui atteindra mon seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes, on aura ta demeure avec des bêtes des champs, et on te donnera, comme au bœuf, de l'herbe à manger. Tu seras trempé par la rosée du ciel, et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur toute la royauté humaine et qu'il donne à qui lui plaît. L'ordre de laisser la souche avec ses racines de l'arbre signifie que ta royauté ne te restera et tu reconnaîtras que celui qui domine dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Daniel lui donne un conseil. Et ce conseil, il nous le donne aussi à nous. Mets un terme à tes péchés par ta justice et à tes fautes, par la compassion envers les malheureux, et ta tranquillité se prolongera. En fait, déjà arrête de pécher, parce que bon, c'est peut-être pas, pour, j'espère pour nous, on n'en est plus là, mais pour nous, il y a quand même quelque chose. C'est et de la compassion envers les malheureux et envers les pauvres et ta tranquillité se prolongera. Tout cela s'accomplit sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans son palais royal de Babylone, le roi prit la parole et dit « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie ?» Notez cette expression, Babylone la Grande, vous la connaissez cette expression ? N'est-ce pas ici cette Babylone la Grande que j'ai bâtie ? Comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour l'honneur de ma gloire. La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. C'est à toi que l'on parle, roi Nebuchadnezzar, ta royauté t'est retirée de toi. On te chassera du milieu des hommes et tu auras ta demeure avec la bête des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et ainsi, ça va t'arriver. Et pendant 7 ans, le roi Nebuchadnezzar était dans les champs en train de manger de l'herbe. Comment ? Comme un animal. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça concerne Nebuchadnezzar. Forcément. Mais moi, il est dit quelque part que tout l'Ancien Testament est quelque chose qui nous a été donné. Sinon, ce serait bon, juste un texte, comme il y en a plein, des textes babyloniens, je peux vous en citer, des textes apocryphes, je peux vous en citer. Ce texte-là, le texte de Daniel. Quelle est l'application de ce texte pour nous actuellement ? C'est quoi cet arbre ? Cet arbre qui monte jusqu'au ciel. Vous vous souvenez qu'il y avait une tour aussi à une époque qui montait jusqu'au ciel, qui se trouvait à Babylone aussi, la même. Babel. Et cet arbre qui montre jusqu'au ciel, qui est international, puisqu'il est marqué que domine tout le monde, qu'elle est visible de tout le monde, elle a quand même une particularité, c'est si tu fais allégeance à cet arbre, comme tous les oiseaux, comme tous les animaux, eh bien cet arbre te nourrit, te donne à manger, t'abrite de son ombre, et tu peux aller picorer les fruits dans ses branches. C'est super. C'est super cet arbre. Mais ce n'est pas l'arbre de vie. Cet arbre, c'est le Babylone. L'arbre de Babylone. L'arbre de ce gouvernement qui deviendra mondial. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour nous. Parce que nous tous, hein, là actuellement, nous sommes les animaux, les oiseaux, tous ceux qui s'abritent à l'ombre de cet arbre, qui vivent de cet arbre, de l'économie mondiale. Souvenez que World Trade Center, ça veut dire le centre du commerce mondial. Pour ceux qui n'avaient pas compris le symbole il y a quelques années, ben là, c'est un arbre. Dans Daniel, il est parlé aussi d'un autre rêve que le roi avait fait. C'était le rêve d'une statue, vous savez, avec sa tête en or, après le bronze. Et puis à la fin, il y a les pieds. Et les pieds, c'est un mélange de fer. Bon, le fer, c'est déjà pas quelque chose de très noble. Et d'argile. Et il y a quelque chose qui est descendu, un rocher qui est descendu et qui a brisé tout ça, et la statue est tombée. C'est la même image. C'était le même roi, d'ailleurs, mais c'est la même image. J'ai une mauvaise nouvelle pour nous. Dieu a décidé d'abattre Babylone, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il est dit, « Quittez Babylone, mon peuple, sortez du milieu d'elle, ne participez pas à ce péché. » Alors je ne sais pas comment ça va se faire encore. J'étais loin d'imaginer un virus. Je suis encore plus loin d'imaginer comment ça Dieu va faire. Mais je sais une chose, c'est que Dieu fera. Mais on n'est pas dépendant. C'est-à-dire tous les animaux, quand l'arbre est abattu, tous les animaux qui sont en dessous, marqués, qui s'enfuient. S'enfuient loin de Babylone, en fait. C'est écrit comme ça. Je voulais vous lire le psaume 11 aussi, vous le connaissez. Verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? C'est une question. Hein. Et pourtant, au début, il est dit, le début de ce psaume, il est dit, « C'est en l'Éternel que je me réfugie. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau, car voici les méchants bandes larves, qu'ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'obscurité sur ceux dont le cœur est droit. » Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Avez-vous la réponse à cette question? Quand les fondements sont renversés, que faisons-nous? Que le juste, que fait-il? Je l'ai lu tout à l'heure. Déjà, réveillez-vous. Ayez une ceinture à vos reins et la lampe allumée. Pendant une certaine période, on pouvait avoir la lampe à moitié éteinte ou à moitié allumée. Ça dépend si vous aimez le verre à moitié plein, à moitié vide. Mais on pouvait suivre Jésus tout en bénéficiant des bienfaits de Babylone. On peut encore, hein, d'ailleurs, c'est pas fini. On pouvait suivre Jésus le dimanche et Babylone la semaine. Vous ne l'avez pas fait, ça? Ou je suis tout seul? Je suis tout seul à l'avoir fait? Excusez-moi. J'aurais pas dû le dire alors. Or, il n'y a pas d'avenir du côté de Babylone. Par contre, on a un avenir glorieux avec le Messie d'Israël. Mais il y a des conditions. La condition, c'est d'avoir la lampe allumée. La lampe allumée, c'est quoi? C'est déjà d'avoir ta parole, qui est une lumière à mes pieds, qui est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Parce que quand l'arbre va tomber, j'ai pensé à cet arbre, c'est pour ceux qui ont la culture Netflix, Avatar, vous connaissez le film Avatar, il y a un grand, grand arbre de la tribu, là, et à un moment, cet arbre est abattu. Ce sera pareil. Enfin, pour ceux qui ont vu le film, c'est impressionnant, parce que l'arbre, déjà, il n'existe pas, parce qu'il est énorme, énorme, énorme. C'est comme celui du rêve de Belshazzar, en fait. Pas de Belshazzar, de Nebuchadnezzar. Mais quand il tombe, il tue des milliers de personnes avec ses branches et c'est la panique totale, quoi. Imaginez la chute de Babylone, c'est-à-dire la chute du système mondial. Les gens pensent qu'ils sont invincibles. Nos hommes politiques pensent qu'on maîtrise tout. Et vous savez que cet arbre, c'est aussi un arbre de surveillance. Pour ceux qui ne le savent pas, on parle de Zoom, on parle de Google, on parle de tout ce que vous voulez. Mais toutes vos recherches que vous faites sur Internet, si petites soient-elles, tout ce que vous regardez sur Internet, si petit soit-il, tout ça, c'est enregistré. Il y en a qui, non contents de faire des recherches comme ça, ils ont mis un petit appareil chez eux, je ne sais plus comment ça s'appelle, Google machin, là, où tu peux causer, donne-moi de la musique, allume le chauffage. Mais il ne fait pas que ça, cet appareil. Il peut aussi écouter toutes tes conversations, s'il veut. Bon, il ne le fait pas pour l'instant, enfin, j'espère. Mais il peut écouter tout ce que tu fais. Nos réunions Zoom, on n'a rien à cacher. Vous pensez que c'est effacé après? Il y a une trace, quelque part. Alors, peut-être pas encore à ce moment-là, mais du jour au lendemain, on peut faire une trace. On n'a jamais été autant surveillé que maintenant. Et Babylone, c'est ça. La tour de Babel, c'était pas une tour pour aller dans le ciel. C'était bien sûr, effectivement, quelque chose qui était un défi à Dieu. Mais à l'époque, ces tours-là, c'était des tours de guet, de surveillance, pour voir si tout le monde marchait ou pas. Vous savez que Babylone, c'était aussi une construction en briques, contrairement à Jérusalem, qui est une construction en pierre de taille, où chaque pierre a sa forme, il y en a qui font 14 mètres de long, il y en a qui sont petites, mais chaque pierre a sa place. Babylone, c'est une brique. Une brique, c'est un moule. Il faut que tu rentres dans le moule. La pensée unique. Si tu rentres pas dans le moule, ça sert à rien, quoi. Et puis avec de l'étanchéité entre chaque de bitume, pour pas que les briques communiquent les unes avec les autres. Babylone est un système. Ayez vos lampes allumées. D'autant plus, on va le lire dans Matthieu 24. Matthieu 24 au verset 4. C'est Jésus qui parle. Prenez garde que personne ne vous séduise. Ça, c'est la première chose. Prenez garde que personne ne vous séduise. Car beaucoup viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ, qui suis le Messie. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous allez entendre parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous de vous alarmer car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Et il y aura des endroits où il y aura des famines et des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs de l'enfantement. Alors on vous livrera au tourment, on vous fera mourir, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et c'est pour cela, et ce sera pour beaucoup une occasion de chute. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Beaucoup de faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et en raison du progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie dans le lieu saint, que le lecteur fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront sur la terrasse ne descendent pas pour prendre ce qui est dans sa maison, que celui qui sera dans les champs ne s'en retourne pas pour prendre son vêtement. Malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaiteront ce jour-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de Shabbat, car il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Il n'y en aura jamais plus. Si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici, il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera beaucoup de faux messies, de faux prophètes qui opéreront de grands signes et de grands prodiges, au point de séduire, si possible, même les élus. On peut continuer, mais il y a deux choses qui ressortent. Deux choses dont on doit se méfier. Où Jésus, alors bon, on peut parler de tout ça, il y en a qui vont dire, oui, c'est une partie qui s'est accomplie déjà par la prise de Jérusalem, mais il y a quand même une partie qui reste en suspens. Deux choses dont il faut se méfier. Est-ce que vous pouvez me les citer? En tant que chrétien maintenant, là, du XXe siècle, deux choses qu'il faut se méfier. Ça, c'est des exercices interactifs. Oui, Yolande. Oui, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Il y a aussi, ils se trahiront les uns les autres. Il y a aussi... Il sera de faux Christ, de faux prophètes, opéreront de grands signes, de grands prodiges, au point de séduire, si possible, même les élus. Alors il y a deux choses. Séduire déjà. Première phrase de Jésus. Que prenez garde que personne ne vous séduise. Et c'est assez lourd, parce qu'au deuxième verset, ils disent et séduiront beaucoup de gens. Et il parle souvent, quand vous lisez le nombre de fois que vient le mot séduire ou séduction, c'est assez énorme. Ça, c'est la première chose. Gardez-vous de la séduction. Gardez-vous de la séduction. Alors, vous allez me dire comment il faut faire. Ayez la lampe allumée et ne soyez pas, comme disait le texte de l'Évangile aussi, des textes, soyez pas emportés à tout vent de doctrine. Ayez la parole de Dieu allumée. Je vous expliquerai comment lire la parole de Dieu aussi. Parce que... Et le deuxième point, c'est l'amour du plus grand nombre se refroidira. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et vous vous souvenez du conseil de Daniel au roi Nebuchadnezzar? Il a dit, exerce la compassion envers les malheureux. On pourrait l'étendre, exerce la compassion envers les frères et sœurs. Exerce la compassion envers ceux qui sont autour de toi. Et tu seras gardé. Il y a Psaume 112 qui dit, celui qui a prêté aux pauvres, il ne craint pas les mauvaises nouvelles. C'est dans le psaume 112, ça. Quelqu'un qui a toujours pensé à aimer son prochain ne craint pas les mauvaises nouvelles. La montagne, enfin, c'est dans le psaume 54 où il dit « Si les montagnes s'éloigneraient, si les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi. » Voilà ce que je voulais dire. Il y a Romains, je pense que c'est Romains 13, pour conclure. Romains 13, 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns aux autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne rendras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, et tout autre commandement se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. D'autant que vous savez quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller. Enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de vous, de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, sans excès de table ni boisson, sans luxure ni dérèglement, sans discorde ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. Et je dis Amen. Et je donne ça comme programme pour 2021. Pour chacun d'entre nous, commencez par moi déjà. Celui qui aime a accompli la loi. Celui qui aime a accompli la loi. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne craignez pas l'arbre qui va tomber. Ne craignez pas les crises économiques. Ne craignez pas le Covid. Ne craignez pas ce qui va arriver. Je ne sais pas ce qui va arriver. Mais une seule chose qui est dit, c'est que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ayez vos yeux fixés sur Christ qui est notre lumière. Et abandonnez aussi cet esprit de peur, cet esprit de crainte qui est alimenté, vous savez par qui, hein, donc je dirais, si j'ai un conseil à vous donner cette année, éteignez la télé. Éteignez la télé parce que ils vous donneront de l'espoir, mais en même temps, ils vous donneront de quoi désespérer, quoi. Notre espoir n'est pas dans un vaccin, notre espoir est en Christ. Et pourtant, on voit tous les gens qui demandent que ça se précipite. Et on n'est pas là. Un jour, on dira, bah, tu auras le droit de te faire vacciner si tu renies ta foi. Vous savez, j'ai lu l'histoire un peu de ce qui s'est passé à l'époque de Hanouka, même à l'époque romaine de l'histoire d'Israël. Je suis bien content d'être au XXe siècle, enfin 21e siècle maintenant, parce que c'était juste invivable. Les situations des croyants étaient invivables. Mais comme disait Jésus, tout disciple n'est pas mieux que son maître. Donc voilà le message d'espoir que je vous apporte pour 2021. Je ne veux pas vous vendre un évangile à l'eau de rose, disant croyant Jésus et tout ira bien. Non, je vous vends un évangile en disant croyant Jésus, il sera avec vous dans toutes les épreuves à venir. Amen. Voilà, voilà. J'ai fini. Je peux finir. Ben, Seigneur, merci parce que oui, Seigneur, nous avons une ferme assurance auprès de toi. Oui, les montagnes peuvent s'éloigner, les collines peuvent chanceler, mais ton amour ne s'éloignera pas de nous parce que tu as fait avec nous une alliance éternelle de paix, Seigneur. Nous voulons craindre qu'une chose, Seigneur, c'est que nos lumières, nos lampes ne soient pas allumées, que comme ces jeunes filles, nous n'ayons pas assez d'huile dans nos lampes au moment où toi, tu viendras à la deuxième veille ou troisième veille, on ne sait pas trop. Mais je sais que ce sera au milieu de la nuit. Tu as dit dans Jean que quand la nuit sera là, personne ne pourra travailler. Le Seigneur, il est dit aussi que toutes les jeunes filles s'endormiront. Mais Seigneur, nous voulons être trouvés veillants, Seigneur. Nous réveiller de notre torpeur, nous réveiller de notre sommeil qui nous berce dans des rêves illusoires. Nous voulons voir autour de nous quel est l'état des temps que nous vivons, Seigneur. Que nous soyons comme les fils d'Issachar, que nous ayons la connaissance des temps, Seigneur, et que nous soyons, oui, dans la veille, dans quelque chose où nous savons ce que nous vivons, Seigneur, et que nous ne découvrons pas, que nous n'ayons pas un coup de retard, que nous ne soyons pas dans la réaction, mais que nous soyons dans l'action. Que nous soyons proactifs, Seigneur, à ce qui va arriver. Merci, Seigneur. Je te prie pour chacun de mes frères et sœurs ici présents, de les garder, Seigneur, dans ta parole, de les garder par ton Esprit Saint. Soyons la lumière du monde, Seigneur, et cette lumière n'est pas là pour être mise sous le boisseau, mais être mise sur un chandelier, Seigneur. Que notre lumière brille autour de nous. Plus les ténèbres vont être épaisses, plus la lumière va briller. Et je te remercie pour cela. Dans le nom de Yeshua le Messie. Amen.